d'être avec moi aujourd'hui et de répondre à mes questions, parce que le système québécois, ça, et canadien plutôt, c'est un système qui m'intéresse beaucoup. Et donc, bah, peut-être pour commencer, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de vous, de qui vous êtes, ce que vous enseignez, votre école, etc.
Oui, parfait. Je suis Alexandre French. Je suis natif de la ville de Ottawa, au Canada. C'est à la frontière du Québec et de l'Ontario. J'enseigne depuis maintenant 18 ans au secondaire en Ontario français. Donc, c'est une minorité francophone dans un système majoritairement anglophone. C'est une école secondaire de 1200 élèves. Et puis, il figure en fait, parce qu'on est dans la capitale nationale et qu'il y a beaucoup de diplomatie, d'environ 60 différentes ethnies de l'Afrique française, des Antilles et puis du Canada. Et puis, j'ai été chef du département des sciences sociales, donc pendant 10 ans. Et c'est ce volet-là d'une école qui est à vocation artistique. C'est une école qui offre des programmes spécialisés de danse, de théâtre, d'orchestre, de chant, ainsi de suite. Et puis, moi, je m'occupais du domaine curriculaire des sciences humaines.
Donc, c'est une école sur laquelle il faut être sélectionné pour pouvoir rentrer dans cette école?
Ben, en partie, il y a deux volets à l'école. Oui, il y a un côté sélectionné, c'est le côté artistique. Donc, il y a des auditions et puis il faut accéder au programme. Autrement, c'est quand même une école publique. Donc, les élèves du quartier et de la région qui veulent s'y inscrire sont libres de s'y inscrire.
Mais il faut qu'ils parlent français.
Ah, tout à fait. Ouais.
D'accord.
Donc, tout se passe en français, même si on est en Ontario anglais. Je dirais que la grosse majorité des gens qui sont là sont toutefois bilingues et parfois même de familles à parents anglophones, à la fois francophones.
D'accord, ok. Et donc, comment est-ce qu'elle est organisée, votre école? Comment est organisée une journée dans l'école d'un petit élève canadien?
Ouais, donc on parle de la province spécifiquement de l'Ontario. Chacune des provinces au Canada est dotée de sa propre juridiction sur son système d'éducation et donc de son propre curriculum, ce qui est débattable à savoir si c'est une bonne idée, surtout pour les cours d'histoire qui sont pas toujours donnés de la même manière d'un bout du pays à l'autre. Mais pour cette école-ci, c'est quand même assez typique. Il y a 4 périodes de 75 minutes par jour, donc 2 avant le dîner, 2 après le dîner. Les enseignants enseignent 3 de ces périodes, puis ils ont une 4e période qui est sur une boucle, là, ça se déplace dans l'horaire pour se préparer. Et puis, grosso modo, les étudiants, vers la 12e année, qui est leur dernière année de scolarité préuniversitaire, ils peuvent avoir un cours libre. Mais autrement, ils ont 4 cours par jour. Et du lundi au vendredi.
4 cours par jour seulement? Mais une période dure combien de temps?
75 minutes.
D'accord. OK. Ouais. Donc, ça fait quand même une bonne période, quoi.
Ça fait des grandes périodes. Puis d'ailleurs, ça fait partie justement des pratiques pédagogiques d'essayer de diviser ces périodes-là en blocs puis de faire varier les moyens du input ou du output. Donc, comme vous avez peut-être su de par vos questions que vous m'avez partagées, il y a moyen dernièrement de quitter le magistral puis d'essayer de un peu diversifier les activités en salle de classe. Et puis c'est là-dessus qu'on se concentre beaucoup à notre école depuis les réformes, depuis une dizaine d'années.
Ah bah, c'est chouette, mais avant peut-être qu'on vienne là-dessus, j'aimerais juste vous poser une question sur le nombre d'élèves que vous avez dans vos classes en général.
Oui, oui. Oui, alors c'est une école de 1200 élèves. Règle générale, on peut s'attendre à avoir une vingtaine d'élèves, mais il arrive très souvent qu'on arrive à notre maximum qui est de 36 élèves par classe. Alors, je pense que le maximum permis, c'est de 36 élèves selon la convention collective.
Et vous, ça vous est arrivé d'enseigner à 36 élèves?
Oui, ça m'est arrivé d'enseigner 3 fois 36 élèves dans 3 matières préuniversitaires différentes et d'avoir donc au-delà de 100 élèves par jour en économie, en droit et en histoire d'Occident.
Wow! Alors, c'est intéressant parce que nous, c'est souvent la configuration qu'on a en France d'avoir 36 élèves, et donc c'est intéressant de voir que bah, vous avez pu faire tenter des choses avec ce nombre-là. Donc, peut-être que justement, on peut voir un peu si le fait d'avoir 36 élèves, avec 36 élèves ou 20, vous organisez votre classe, votre espace différemment, par exemple?
Oui, on a une expression à notre département. Des fois, on dit qu'en dessous de 20 élèves, c'est une famille. Au-dessus de 30, c'est une meute. et que ça démontre. Ouais. C'est pour dire qu'il y a des défis de gestion. Aussitôt qu'on dépasse les 25 élèves, ouais. Il est possible pour les élèves de passer inaperçus. Il peut y avoir trop de feux à éteindre à la fois. Bon, il faut s'organiser dans ces moments-là pour qu'il y ait un engagement général à la matière. Puis bon, ce qu'on essaie de faire à notre école et puis ailleurs, c'est de miser sur la motivation intrinsèque des élèves. Fait que, traditionnellement, le système magistral repose sur une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'on impose aux élèves une discipline et on impose aux élèves l'obligation d'être attentif. Et puis, on procède par punition dans les cas où il n'y a pas d'attention. En principe, l'idée de passer par une approche qui motive l'élève au niveau intrinsèque, c'est toute une gamme d'approches et de pratiques qui sont faites pour que l'élève se rende compte que c'est une communauté, la salle de classe, et que tout le monde a son rôle à jouer, puis l'objectif, c'est aller de l'avant. Puis l'objectif, c'est d'une manière ou de l'autre de terminer la journée en se disant « Ah bon, je me sens plus enrichi que je l'étais ce matin, puis j'ai apprécié ma journée, puis j'ai hâte d'y retourner demain. »
Et est-ce que vous croyez justement que l'organisation de l'espace et l'utilisation de l'espace, elle joue aussi sur cette motivation ou pas vraiment?
Oui, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées récemment, puis dans mes études de recherche, je suis tombé sur plusieurs articles peer-reviewed universitaires, beaucoup d'expériences faites en Corée, par exemple, du Sud. Oui, ils démontrent que l'organisation de la classe a un impact direct sur les comportements à la fois de l'enseignant et des élèves, que de placer les pupitres en rang d'oignon, ça occasionne une genre de disposition psychologique à être passif dans la réception des études. Pour ma part, mon local à moi, il est organisé avec 36 pupitres, mais ils sont en deux demi-cercles concentriques. Donc, ça fait un peu comme un forum de discussion, un peu comme un plancher parlementaire. Et puis, ça aide à ce que les élèves se sentent engagés à contribuer à la discussion de classe, puis aussi à ce qu'ils s'échangent directement entre eux. Il y a des moments, et ça arrive pas souvent, mais on vit pour les voir, où la discussion prend, que ce soit sur un sujet ou un autre, puis que, en fait, la discussion se fait entre les élèves, puis le prof, l'enseignant peut prendre un genre de position de président de la salle, puis de simplement gérer la discussion et puis de la guider.
D'accord. Toujours, si on reste sur l'organisation matérielle, est-ce que vous utilisez aussi des nouvelles technologies, des tablettes? Parce qu'il y a beaucoup de discussions en France à ce sujet en ce moment.
Absolument, beaucoup de discussions là-dessus. Oui, aussi, ici, les écoles, en fait, ça varie énormément d'une école à l'autre. Ma fille qui va dans une école qui est à quelques kilomètres de celle où j'enseigne, pour eux, c'est absolument interdit. Donc, tout appareil électronique est confisqué. C'est aussitôt qu'il est vu. Tandis qu'à notre école, on a tenté quelque chose qu'on appelle c'est-à-dire politique de l'avant, qui est apporter votre appareil vous-même. Donc, on permet aux élèves d'avoir leur téléphone, et pour le meilleur et pour le pire, je dirais. D'une certaine façon, il faut s'avouer que c'est une distraction. Il faut aussi se rendre compte qu'ils ont tellement de réseaux sociaux que de gérer cet appareil, je pense que ça les draine au niveau psychique. Il y a aussi des études là-dessus qui ont été faites encore une fois en Corée puis au Japon. Il y a des élèves pour qui ça devient obsessif. Ils se lèvent la nuit pour vérifier leur compte. Ils perdent du sommeil. Il y a aussi des chicanes, en fait, qui ont lieu à travers les réseaux sociaux qui les drainent au niveau émotif, là, quand ça porte atteinte à leur estime de soi. Et puis, des fois, on se demande si, à force de gérer Snapchat, Twitter, Facebook, tout ça, que quand c'est le temps de se concentrer sur une tâche académique, bien qu'ils sont fatigués. Ça, c'est le volet négatif. Toutefois, il faut comprendre aussi qu'on est en train d'intégrer, par exemple, les applications Google. Donc, avec un courriel Google, on accède aussi à de l'information, c'est-à-dire une banque de données en ligne, ou c'est-à-dire un espace disque en ligne. Et on peut partager des documents. En fait, par exemple, dans le cours de droit international et canadien, on fait une analyse de la Charte canadienne des droits et libertés. C'était 22 questions. Normalement, je distribuais ça sur papier, puis chaque élève passait plus d'une semaine à répondre aux 22 questions en analysant le document. Mais la semaine dernière, je les ai tous invités à ouvrir le même document, et puis ils se sont mis à travailler de par leur téléphone. Chaque groupe de deux avait une des questions. Tout ça pour dire qu'en une seule période, le groupe a collectivement répondu aux 22 questions. Et ça s'est fait sur un document en ligne, donc à l'écran de projection, en avant de la classe, on voyait le document qui était actif et on voyait les 15 différents curseurs apparaître, chacun identifié avec le nom du compte de l'élève, et on voyait que collectivement, tout le monde répondait au document ensemble. Et ça nous a permis de... Ça ça donne aux élèves aussi un sentiment de, un, c'est pas interminable, deux, c'est collectif comme effort, puis ensuite, trois, quand on passe en revue à titre de révision finale du document, ben chaque équipe se lève et puis présente sa section. Et puis, ça occasionne des discussions, puis un sentiment d'avoir travaillé là-dessus en équipe.
Oui, donc c'est chouette. Et c'est vrai que peut-être avec leur matériel aussi, ils se sentent plus responsables que si c'était l'école qui apportait qui prêtait.
Oui, oui.
C'est aussi utile pour ça.
Oui. Mais encore une fois, on est tous en débat. Il y a des pour et des contre. Et puis, on a surtout, à notre école, décidé d'y aller de l'avant parce que on voulait voir ce qui en ressortirait. D'accord. Puis, puis on est encore en processus de découverte à ce niveau-là. Là, à chaque semaine, on essaie des nouvelles.
Ça fait combien de temps que vous travaillez de cette manière?
Il faut dire que ici, au Canada, il n'y avait aucun téléphone intelligent il y a à peine 6 ans. Et puis, 5 ans avant ça, il n'y avait aucun téléphone portable du tout. Alors, ça s'est fait dans les dernières 10 années. Et puis, c'est vraiment le téléphone intelligent qui a tout changé. Puis, je dirais les dernières 5 années.
D'accord. D'où vous attend le matériel? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de la motivation et des expériences que vous avez menées? Est-ce que peut-être vous pouvez m'en dire un petit peu plus?
Oui, c'est difficile à cerner parce que c'est presque comme si ce que l'Ontario... OK, d'abord, l'Ontario est passé à travers 3 ou 4 ou même 5 vagues successives de réformes. La première avait été de changer les critères d'évaluation de base. Ça s'est fait en 1999, où ils ont initié cette nouvelle mesure, et puis ça s'est traduit par ce qu'ils appelaient la grille d'évaluation adaptée du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Puis cette grille, en fait, propose une gamme de différentes facultés à évaluer. Donc, c'est des facultés de la pensée ou les habiletés de la pensée. Donc, ça commence bien sûr avec connaissance et compréhension, qu'on associe souvent avec le par cœur. Mais ensuite, il faut aussi que l'enseignant s'assure de poser des questions de type réflexion-analyse, qui sert à faire les liens entre les choses, réflexion critique, qui sert à prendre position et défendre une perspective quant à une question ou une problématique, puis enfin, de savoir transposer ces connaissances-là à des milieux nouveaux, ce qui s'appelle application ou transfert et application des connaissances. Ce qui veut dire de permettre à l'élève d'avoir l'occasion de servir de ses outils de manière autonome pour l'interprétation d'un autre sujet de son choix à travers la lunette de la matière étudiée. Puis enfin, la communication, bien sûr. Donc ça l'a poussé à un genre de changement général de la façon dont on évaluait, la façon dont on posait nos questions. Puis plus important encore avec les vagues subséquentes de réformes, c'était d'amener l'élève à devenir conscient lui-même de son processus intellectuel. Donc, ça s'appelle aussi des fois la métacognition, et c'est de devenir sensible à ce qui se passe intérieurement quand on s'apprête à exercer une de ses facultés mentales. Je peux vous donner un exemple un peu simpliste, c'est-à-dire que si on vous demande, et là je vous demanderais juste d'observer votre pattern neurologique ou la façon dont votre esprit se déroule, quand je vous demande de me définir un brocoli ou encore de me définir un chou-fleur, ça c'est une opération mentale qui est liée à la connaissance et à la compréhension. Il y a des tiroirs de souvenirs dans nos esprits, puis on fait simplement qu'aller chercher l'information. Mais si je vous demande, maintenant vous allez en quelques lignes me dire quelle est la différence entre un brocoli et un chou-fleur, vous devriez sentir que vous êtes à un niveau d'opération mentale plus sophistiqué, qui est de l'interprétation et de l'analyse. Il faut passer d'un objet à l'autre et de voir les différences et les similitudes. Si par contre je vous demande lequel est le meilleur, puis ensuite, je vous demande de justifier pourquoi. Mais là, on est rendu dans de la pensée critique. Puis là, il s'agit de construire des arguments qui servent à défendre nos perspectives. Puis si on dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des choux-fleurs et puis des brocolis que de la cuisine? Eh bien là, ça suscite un genre de pensée improvisation qui prend le bagage puis qui l'apporte vers d'autres objets. Maintenant, ça peut sonner banal, mais disons que je vous change votre brocoli puis votre chou-fleur pour Platon puis Aristote. Mm-hmm. Ou pour Hitler et Mussolini, ou pour Picasso, puis Monet. Alors, que ce soit d'un domaine à l'autre, ce qui arrive, c'est que l'élève, et puis par la discussion et par les années, l'élève apprend que oui, on va changer la matière, mais ce n'est pas la matière. La matière, c'est la table sur laquelle on met des occasions de réfléchir, des occasions de penser autonome. Puis qu'en fait, ce qu'on évalue, mis à part la connaissance et la compréhension de la matière, c'est ses habiletés mentales, c'est notre traitement de la matière, puis les facultés qui viennent avec.
Donc, en gros, aussi, le métier du prof, c'est aussi de faire prendre conscience à l'élève de ses facultés et de les mettre en œuvre et de l'aider.
Oui.
Mais c'est pas évident.
Non. Non. Et puis, c'est là que je veux dire que la raison pour laquelle cette transformation ou cette évolution de la salle de classe est difficile, c'est que ça commence par un changement de perspective, presque au plan philosophique de la part de l'enseignant. Si l'enseignant se voit comme un livreur de matière, il va adopter une gamme de comportements qui vont s'entrancher, qui vont placer tout le monde dans un système d'éducation qui maintenant date de deux siècles et qui était conçu pour produire des travailleurs industriels. Dans le monde d'aujourd'hui, puis il y a des recherches aussi importantes là-dessus, par exemple aux États-Unis, où les employeurs et les universitaires disent qu'à peine un tiers des élèves qui leur arrivent sont prêts, dans la mesure où ils ont les habiletés qui sont souhaitées. Et ça pose problème surtout parce que au niveau compétitif, concurrentiel des nouvelles technologies puis du développement économique moderne, on cherche des gens qui sont autonomes d'esprit, capables de aborder en fait un problème par eux-mêmes. On leur donne des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution, puis c'est à eux puis en équipe de réseauter puis d'arriver avec des solutions aux problèmes. Puis on se rend compte que ces habiletés-là ne sont pas évaluées. Traditionnellement, font pas partie de ce qu'on recherche chez un élève. Autrefois, ça leur était discipline, et puis savoir, et puis une capacité de produire, de répéter un processus de manière impeccable. Mais ici, on veut des gens qui travaillent ensemble, qui peuvent improviser, qui peuvent essayer d'envisager des solutions, varier à des problèmes. Et c'est ce qu'ils recherchent dans le monde du travail. Donc, pour que ça se traduise dans la salle de classe, il faut que l'enseignant apprennent que son objectif, c'est d'enseigner à apprendre. C'est pas d'enseigner la matière, c'est d'enseigner à apprendre. J'ai d'autres exemples qui peuvent faire passer un peu à ça. Je sais que j'ai fait ça lorsque j'ai parlé à une conférence à un groupe d'enseignants, j'avais une trentaine d'enseignants. Et je leur ai dit, OK, je vais vous dire, on va faire de l'algèbre. Donc, 2x plus 2 égale 14. Et je leur ai dit, montrez-moi le pouce vers le haut si vous êtes à l'aise et le pouce vers le bas si vous êtes inconfortable quand je vous demande ça. Fait que la moitié du groupe, c'était des adultes. Ils ont fait le signe d'inconfort face à cette idée. Puis quand je leur ai demandé tout simplement, est-ce qu'il y a un nombre fois 2 auquel on ajoute 2 qui va nous donner 14, puis ils ont dit, ben c'est 6. Et puis je leur ai dit, ah, mais vous venez de faire de l'algèbre. Et puis là, on voit que même chez des adultes, la salle de classe traditionnelle, par exemple en mathématiques, a tendance à miser sur le savoir presque mécanique, puis l'exécution mécanique des tâches, sans vraiment savoir vraiment si l'élève qui a la meilleure note comprend fondamentalement ce qu'il est en train de faire. Et d'enseigner à l'élève de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, c'est une nouvelle approche. Donc, on avait conclu avec ces enseignants qu'en mathématiques, par exemple, un exercice qui serait valide, ce serait de donner une gamme de phrases algébriques comme celle-là et de demander qu'on les traduise au français. Et les élèves se rendent compte, ah, mais ça se traduit en simple français. Quel nombre fois 2 plus 2 égale 14? Puis ensuite de voir, ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Et l'algèbre, en fait, c'est des phrases. Et puis ces phrases-là sont de la logique. Puis cette logique est inhérente à notre pensée. C'est lorsqu'on panique parce qu'on ne sait pas comment appliquer la règle qu'on arrête d'apprendre, qu'on arrête d'être apprenant. Ce qu'il faut au lieu, c'est qu'on apprivoise la règle en se rendant compte qu'elle existe pour des raisons qui sont parfaitement dans l'entendement. Et que cette approche-là fait que l'élève est engagé comme un explorateur dans ses mathématiques au lieu de comme un récepteur.
Donc vous, quand vous enseignez par exemple l'économie, est-ce qu'il y a, comment vous faites passer ce genre de raisonnement Allez, vous lui faites sentir ça, parce que c'est bien de l'expliquer à un groupe de profs, mais après, quand on est devant sa classe,
ouais.
C'est pas évident.
Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est étrange parce que ça revient à vraiment à l'approche. Puis, le mot-clé, en fait, pour ce qui est de, par exemple, une matière complexe comme celle de l'économie, c'est le contexte. L'élève a besoin de lier ce qu'il est en train d'apprendre à son contexte personnel, et au contexte plus grand qui est contexte historique. Fait que, il y a des méthodes simples, par exemple, qu'on emploie où on se dit, bon, ben, OK, comment ce principe économique-là se traduirait dans l'économie d'un village? Et puis, on prend toujours une île, pour un petit village, une île. Bon, alors là, il y a le troc, puis ensuite, il y a comment on fait pour établir le prix. Puis, on banalise un peu, c'est de la vulgarisation. Puis, en prenant le temps de vulgariser, l'élève, au lieu d'être entraîné dans un projet sans trop savoir le pourquoi, le comment, donc qui est donc simplement obligé de suivre, de par une motivation qui est extrinsèque, qui est imposée, en lui donnant ce contexte, puis en l'amenant à voir que ben, ça lui appartient, ça fait partie de son quotidien, ça va faire partie de sa vie et ça fait partie de sa civilisation. Avant d'embarquer dans les détails techniques, ben là, lorsque les détails techniques arrivent, l'élève les reçoit un peu comme un obstacle dans l'exploration du domaine et pas comme une imposition. Et puis, il est motivé par son propre engagement à découvrir sa vie, à découvrir la vie. Et puis, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque.
Mais alors, ça veut dire que vous laissez tomber le cours magistral, mais malgré tout, vous donnez des explications magistrales.
Oui. Oui, vous avez raison. Et, surtout pour des cours préuniversitaires, et ça, c'est un autre débat qui est très fort. Il y a beaucoup de théoriciens puis d'enseignants maintenant qui parlent de la classe renversée et puis de ce qu'on appelle aussi la cascade réflexive où tout est motivé par un questionnement, puis c'est un petit peu comme transformer chaque activité comme une tâche à la Sherlock Holmes. On a vu ça et c'est très très efficace au niveau du primaire avec des enfants de 10, 11, 12 ans. Mais quand on en arrive à des matières préuniversitaires comme économie ou philosophie ou les cours de sciences pures, il y a un souci chez moi puis chez mes collègues. Il faut absolument qu'ils soient prêts. Il faut, par exemple, pour entrer en ingénierie, il faut connaître sa physique. Puis il faut connaître la physique optique, comme la physique mécanique, puis la physique électrique. Alors, on peut pas oublier la matière. Mais on se rend compte que, au lieu de traiter la matière comme une trame, et quand un élève pose une question intéressante, de lui dire « Ah non, ça c'est l'unité 3, ça, on va voir ça dans 3 mois », on a appris à prendre l'occasion. Aussitôt qu'il y a une véritable question motivée par la curiosité intrinsèque de l'élève, et puis on s'embarque. Puis, ce qui arrive, c'est que ça semble être un arrêt du cours, ça semble être une parenthèse. Puis, le prof sert... en fait, ce qui arrive, c'est des fois, c'est comme si le feu prend dans la classe et les élèves ont des questions l'un après l'autre et sont en train de se rendre compte, ah, mais c'est comme ça les cartes de crédit, mais c'est scandaleux, c'est ça les taux d'intérêt. Et puis bon, OK, puis on se rend pas compte, mais ils ont un attachement émotif et puis ils sont engagés. Et puis plus tard, lorsqu'on va faire le taux d'intérêt de la Banque centrale, ils vont se rendre compte, ah, OK, comme pour les cartes de crédit, mais là, ouais, et puis on se rend compte qu'on a préparé le terrain, puis que plus tard, les tâches seront apprivoisées avec encore plus d'entrain. Et puis qu'on n'a pas l'impression de forcer un repas après l'autre, à l'encontre peut-être des intérêts ou de l'engagement des élèves.
Mais ça peut paraître un peu peut-être déstructuré parfois, il faut s'y retrouver.
C'est ça, vous avez raison, et c'est effrayant. C'est ce qu'on dit. Il y avait un enseignant justement qui a fait un TED Talk, c'est un prof de génie aux États-Unis. Lui appelait ça Embrace the Mess. Recevez à bras ouverts le chaos d'une salle de classe qui est un peu débobinée en termes de matière. Mais on se rend compte que l'esprit humain, et puis juste généralement, si on pense à comment les humains ont appris à travers les temps, comme surtout à titre de disciple ou d'apprenti, que c'est débridé, c'est n'importe quoi, c'est ce qui survient ce jour-là. Si on est apprenti mécanicien, on apprendra cet aspect-là de la mécanique quand cet aspect-là de la mécanique se présentera. Il n'y a pas vraiment un programme. On s'embarque dans l'exploration de la matière, puis je sais que nous, on est qu'à nos débuts, puis on s'inquiète encore. Si vous saviez, notre ministère de l'Éducation publie à chaque année ou republie à chaque année le curriculum. Le curriculum ontarien pour un cours préuniversitaire de, par exemple, philosophie, ça se résume à peu près à un pamphlet de 7 pages. Et tout ce qui est compris dans le pamphlet, c'est des objectifs d'apprentissage qui font référence à des notions sans pour autant limiter l'enseignant ou structurer la matière. Chaque enseignant est libre d'aborder et de structurer la matière comme bon lui semble, quoiqu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Mais c'est pas prescrit. Étrangement, je pourrais vous dire que le cours de philosophie se résume à peu près à 18 questions fondamentales qui sont l'échine du curriculum, puis bon, quelques pages de questions guides. Et c'est tout ce qui définit un cours de 90 heures. C'est un pamphlet de quelques pages.
Avec un examen commun pour tous les élèves de la province, malgré tout?
Oui. Ben, effectivement, non. On se dirait que oui. Au Québec, c'est le cas. Au Québec, il y a un examen commun pour tous les élèves de chimie 12e, de chimie secondaire 5, par exemple, mais pas en Ontario. Ça pose certaines inquiétudes. Étrangement, on se dirait, mais comment on fait pour avoir un standard à la grandeur de la province quand chaque enseignant est en fait l'auteur de son propre examen? Oui. Donc, chaque enseignant est l'auteur de son examen. Si trois enseignants dans une école donnent le même cours, ils doivent s'entendre sur un examen commun pour que tous les élèves du même cours dans la même école soient soumis au même examen. Mais non, il y a autant d'examens à la grandeur de l'Ontario qu'il y a d'enseignants ou qu'il y a d'écoles pour cette matière-là.
D'accord. Donc, il y a quand même malgré tout des contrôles, enfin, je suppose, pour vérifier que tout le monde...
Ben, oui, c'est ce qu'on. Il y a seulement en Ontario deux contrôles standardisés qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité pour la comparaison. C'est un examen provincial de mathématiques en 9e année et un examen provincial de compétences linguistiques en 10e année.
D'accord.
Et mis à part ces deux-là, on s'en tient à la bonne volonté des enseignants de l'Ontario de bien vouloir préparer les élèves à l'université. Et c'est étrange à dire, mais ça fonctionne tellement bien que l'Ontario est reconnu mondialement pour avoir un des systèmes les plus efficaces en matière de littératie et numératie à la fin de la 12e année. Et puis on est loin encore de faire ce que la Finlande vient de faire, qui est carrément d'abolir les cours par matière. Donc la Finlande, cette année, a décidé de traiter les cours non comme étant des matières, mais des domaines de discussion.
D'accord. Mais pour vous, qui avez vécu tous ces changements, puisque ça fait quelques années que vous enseignez, vous ressentez ça comme une évolution nécessaire et puis comme vraiment un élément justement qui motive les élèves et qui leur permet d'avancer mieux?
Oui. D'abord, pour ce qui est des les évaluations standardisées, il y a beaucoup de problèmes, surtout aux États-Unis, qui surviennent, on se rend compte, puis j'ai encore fait quelques recherches là-dessus pour ma maîtrise. On remarque un changement de comportement. Les enseignants, quand ils sont soumis à des examens standardisés, et souvent il y a de la pression de la part des parents, de la part des administrateurs, de la part des conseils scolaires, on veut un niveau très élevé de réussite à ces examens standardisés et donc on laisse tout tomber. On abandonne complètement la salle de classe comme forum de discussion et milieu d'exploration et ça devient carrément un centre d'entraînement à l'examen. Puis tous les comportements des enseignants, surtout et puis parfois de l'administration, deviennent axés sur la réussite de ces tests qui sont trop souvent des très grands examens à choix multiples. Et en fait, la farce qu'on en fait souvent, c'est qu'on enseigne aux élèves à répondre à des questions à choix multiples. Et je dirais que la Finlande s'est rendu compte de la même chose et quelques autres pays scandinaves sont aussi à l'avant-garde là-dessus, que ces examens standardisés, ça corrompt le milieu de classe comme milieu d'apprentissage. Et puis que l'échange de perdre un peu les métriques d'évaluation standardisée en faveur d'une salle de classe beaucoup plus ouverte et flexible, ça vaut certainement la peine. Puis je dirais pas qu'il faut abandonner l'évaluation standardisée, c'est seulement qu'il faut abandonner cette évaluation d'une méthode purement objective d'évaluer. C'est-à-dire, si on veut avoir des évaluations standardisées, il devrait y avoir là-dedans la communication avec les pairs, le travail, la collaboration en équipe, la capacité de résoudre des problèmes, la capacité de proposer des solutions originales, de porter un jugement. Si ça, ça faisait l'objet de nos évaluations standardisées, ben alors oui, parce que tous les enseignants en salle de classe seraient poussés à développer ces facultés mentales chez les élèves. Mais avec des examens standardisés qui sont, en fait, ils sont administrativement produits pour être facilement corrigés, puis tabulé, ça retarde le système, ça pousse tout le monde à abandonner la véritable éducation, puis à ne faire que de la prescription de tâches.
Mais alors concrètement, vous, comment vous vous y prenez pour, parce que les tâches, enfin tout ce qui est mémorisation, comme vous dites, c'est facile à évaluer. Comment vous évaluez la collaboration avec les pairs, la pensée critique, c'est difficile, ça aussi c'est difficile.
Oui. Oui, c'est vrai. Mais on a développé dans notre secteur quelques approches. La première, c'est, je vous en ai fait part plus tôt, il y a façon de poser des questions qui suscitent carrément une réflexion approfondie de la part de l'élève. Quand on lui demande quelle est la différence entre le matérialisme et l'empirisme, où on lui demande en quoi sont-ils similaires. Bon, si l'élève en philosophie est capable de répondre, c'est parce qu'il a fait un processus de réflexion. Donc, un exemple, c'est que j'ai des évaluations qui sont en fait des tests avec des questions, avec des réponses courtes, d'environ 5 ou 6 lignes. Mais il y a 8 questions sur un test, mais j'enseigne pas pendant un mois pour ensuite soumettre le test. Je leur donne les questions à l'avance, puis ils me disent « mais c'est les questions du test ». Puis je leur dis « oui ». Puis ils disent « mais on comprend rien ». Je dis « mais c'est parce qu'on n'a pas encore fait la matière ». Et puis ensuite, je leur dis d'ailleurs, on va simplement répondre à la première question après-demain. Après-demain, on répond à la première question, oui. Et puis ça me permet donc de dire « voulez-vous que je vous explique un peu c'est qui Aristote ?» Puis ils vont dire « ouais ». Puis quelqu'un va lever la main et puis il va dire « ok, mais quand vous dites qu'Aristote est un empiriste, est-ce que… » Et puis là, la question commence à s'approfondir. Donc, tout leur intellect, parce qu'ils connaissent déjà la question du test, leur intérêt et leur intellect est comme temps à résoudre le problème. Et ça crée de la discussion, ça crée de l'échange. Et puis, je leur dis « ok, maintenant, vous avez le droit de vous parler tant que vous voulez, mais vous allez rentrer en classe bredouille avec votre stylo et vous allez chacun répondre à cette question par vous-même et vous allez avoir 15 minutes pour le faire. » Donc, une fois que c'est fait, je peux corriger 36 copies, une seule question en à peine une heure. Et le lendemain, je peux leur dire voici vos résultats. Certains d'entre vous avaient un niveau limité, d'autres ont un niveau partiel, d'autres sont adéquats, d'autres sont remarquables. Donc, c'est un peu, ça s'appelle niveau 1, 2, 3 et 4. Ça correspond avec les ABCD universitaires qu'on a. Tout ça pour dire qu'ils se rendent compte, je leur demande, traite ça comme une expérience d'apprentissage. Tu as répondu d'une manière partielle. Pourquoi est-ce que c'était partiel? Quel était ton manque à gagner en termes de stratégie de réponse? Puis on dit, OK, maintenant vous allez répondre à la question 2 après-demain. Et ça, cette question-là, c'est sur Platon. Et puis là, ça recommence. Et ça, c'est une méthode de livraison de la matière, mais qui est toujours structuré autour de la réflexion. Et parce qu'ils ont la question à l'avance, leur esprit n'est pas simplement en train d'essayer de retenir par cœur sans savoir discerner entre la matière importante ou non. Leur esprit est activement en quête des liens qui vont permettre d'adresser la problématique de la question.
Mais ça sous-entend que vous en ayez 36 très motivés, qui aient vraiment envie de réussir, qui soient dans cette dynamique. Déjà, vous avez beaucoup de chance.
Oui, OK. Et puis là, vous touchez sur l'autre point, puis c'est tout à fait valide. C'est que pour nous, dans les matières préuniversitaires, ça correspond avec un groupe enrichi. Ils ont été triés, ils ont été approuvés. Ils ont l'intention de poursuivre leurs études à l'université. Donc, c'est un peu comme quand on se retrouve en 12e année avec des élèves de chimie, de physique, de biologie. Ils sont sérieux. Ils sont là parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils ont un projet de carrière. Même chose avec droit ou économie ou histoire d'Occident. Ou l'intro à la philosophie, on ne se retrouve pas là si on n'est pas prêt. Mais on a toute une autre gamme de groupes à notre école qu'on appelle des pré-collégiaux. Et pour eux, il y a des codes de cours et des matières et puis des attentes par matière qui sont façonnées en considérant que leurs besoins et puis leur disposition en termes d'apprentissage est beaucoup moins académique et que pour eux, tout doit passer par le pratique. Et puis, dans ce cas-là, il y a question de… Et ça ne veut pas dire que la matière est enseignée avec un niveau plus pauvre, disons, de compréhension et tout ça. C'est juste qu'on traite ces élèves-là comme ayant une disposition qui exige une application pratique. Donc, avec eux, ce serait un cas. On prendrait une étude de cas, on ne mentionnerait pas des philosophes, on ne parlerait pas d'Aristote, on ne parlerait pas de Platon. Peut-être on parlerait du dernier épisode de Sherlock Holmes, et puis on explorerait simplement comment Sherlock Holmes s'y est pris. C'est beaucoup plus terre à terre. Et quand on travaille un peu avec ces méthodes-là, de rendre très, très, très concrète la matière, on se rend compte que, en fait, c'est très utile même avec les élèves enrichis, même avec les élèves préuniversitaires. Ceux-là se rendent compte, souvent, leur apprentissage est tellement intellectuel qu'ils sont surpris de découvrir qu'il y a un autre apprentissage qui peut se faire au niveau pratique.
Mais quand vous dites au niveau pratique, c'est-à-dire que vous leur donnez des cas, mais à chaque fois par le questionnement oral, ou alors c'est des cas écrits sur lesquels ils doivent travailler à plusieurs?
C'est des cas écrits, on peut se servir d'un clip YouTube, on pourrait se servir d'une émission populaire, on pourrait, ça peut être n'importe quoi. Alors, je pense à un cas en sciences 10e année. J'avais dû enseigner les circuits. Donc, il y a des symboles qui servent au tableau pour identifier des circuits. On peut mettre des symboles qui représentent une pile, faire une batterie, un résistor, une ampoule, un interrupteur. Et puis, j'avais un élève, Nassim, qui s'inquiétait pour sa réussite. Il voulait pas devoir être transféré à une école de rattrapage. Puis, il passait à peine. Puis, il était dérouté un peu par ses symboles puis par ses circuits. Mais un jour, je suis rentré avec une plaque. C'est en fait un genre de puzzle fait pour des raisons pédagogiques. Et c'est un genre de jeu de table sur lequel il existe des circuits ouverts et dans lesquels on peut insérer des piles, des lumières et puis des interrupteurs. Et puis physiquement, ce sont des objets physiques qui sont en fait un réel circuit électrique. Puis Nassim, il m'a dit « Est-ce que je peux jouer? » J'ai dit « Seulement si tu peux m'enrayer une lampe de poche en série. » Et pendant que j'écrivais au tableau, j'ai entendu claquer derrière moi, clac, 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 clac. Quand je me suis tourné, en effet, il y avait quatre piles en série et l'ampoule était allumée. Puis j'ai dit « Bravo! » J'ai dit « Peux-tu les mettre en parallèle? » Puis très rapidement, il m'a mis en parallèle. Et quand je lui ai dit pourquoi la lumière, elle brille à moitié aussi forte, et puis il a dit, ben parce que les piles vont durer deux fois plus longtemps, monsieur. Puis je me suis rendu compte que Nassim, qui avait une note d'environ 60, soudainement, il venait de manifester le fait qu'il saisissait la matière à un niveau de 90%. Et je savais aussi que les intellectuels de la classe, ceux qui n'avaient pas de problème avec la symbolique puis les dessins sur papier, ben que sans doute que la plupart d'entre eux n'auraient pas été capables de performer aussi bien que lui au niveau pratique. Qu'on se rend compte comme ça que les intelligences sont multiples, oui. Que les manifestations puis les rôles que les gens ont à jouer dans notre société sont diverses, et puis que s'ils savent capitaliser sur leurs atouts, ben ils vont devenir engagés à se découvrir, engagés à s'approfondir, à développer leur estime de soi, puis ça se traduit très rapidement dans un goût de contribuer à la société puis au milieu. Et puis, c'est ce qu'on cherche à faire, dans le fond, c'est de créer d'excellents citoyens. Mais quand on parle de... Nous, on forme des scientifiques, mais ce qui nous importe, c'est quel type de scientifique. Est-ce que c'est un scientifique avec un principe de moralité, puis d'engagement éthique, puis de responsabilité face à sa société? Si je forme un économiste, je veux savoir quelle sorte d'économiste. Est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il comprend qu'on n'apprend pas l'économie dans un vase clos, que ça fait partie d'une réalité plus élargie dans laquelle il y a des humains et puis il y a de l'environnement? Puis on peut faire la même chose avec tout le monde. Si en tant qu'enseignant, on est philosophiquement disposé à voir le savoir comme une aventure et puis à aller chercher chez les élèves leur motivation intrinsèque. Trouver chez chacun des élèves le goût d'aller de l'avant.
Mais c'est vrai que je suis quand même assez perturbée par le fait que tous les élèves adhèrent et que vous perdez personne. Ça veut dire que vous les connaissez tous tellement bien que vous arrivez... Parce que là, c'est un élève et c'est en physique, mais si vous êtes sur un concept d'économie, vous pouvez, c'est peut-être ou des matières qui sont moins kinesthésiques, on va dire. C'est peut-être... Ouais. Comment on arrive à ne pas perdre du monde? Comment on arrive à les garder tous motivés et toujours concentrés sur et participer, à les faire participer?
Oui, je vous assure, c'est possible. Il faut briser le moule. Il y a comme une originalité disponible tout juste en dessous de la surface. Par exemple, en économie, je leur ai dit, je veux vous apporter un objet, quelque chose qui est en dessous de votre lit, quelque chose qui vient de votre chambre, quelque chose qui est marrant, n'importe quoi. Apportez-le, mais aussi apportez de l'argent. Puis ils disent, pourquoi? Je dis, parce qu'on va faire un encan. Et puis, j'ai déjà, en guise de crieur d'encan, je fais un encan, voici un objet. Puis, si quelqu'un a amené une boîte de biscuits qu'ils ont cuisiné eux-mêmes, puis bon, mais il y a quelqu'un qui a mis 10$, qui a gagné l'encan, puis ensuite, il a divisé ses biscuits, puis il les a remis en vente, mais à l'unité, puis il a capitalisé comme ça. Et puis, d'autres, parfois, je dis, voici une feuille de papier, puis il n'y a presque pas de demande, et je dis, il y a 3 réponses au test dessus. C'est un gros jeu, les élèves disent, mais c'est une grosse farce, on a passé 70 minutes à rigoler. Puis le lendemain, quand on parle des principes de l'offre et la demande, et puis soudainement, ils veulent tous en parler.
D'accord. Il faut être créatif, en fait.
Il faut un peu abandonner le souci de traiter la matière comme une trame narrative, avec un A, un B, un C qui doit être couverte de manière linéaire. Il faut avoir une approche beaucoup plus organique à l'apprentissage.
Ça fait peur au début quand même, hein? Il faut avoir le courage de plonger là-dedans. Ça veut dire aussi que, d'après ce que j'entends, vous ne différenciez pas forcément la manière avec laquelle vous enseignez. Vous ne reconnaissez pas que pour certains, peut-être, il faudrait enseigner d'une manière différente, donner des énoncés différenciés, donner...
la différenciation, c'est vrai, c'est nécessaire. Mais vous avez raison, je ne sais pas si vous avez le défi dans votre système en France, mais c'est on ne peut pas décrocher la lune. On essaie de... En fait, la stratégie qu'on a tendance à adopter, nous, notre secteur, c'est s'il y a une différenciation qui vaut la peine d'être appliquée, peut-être elle vaut la peine d'être appliquée à tous. Dans la mesure où, au lieu de voir... Certaines des adaptations, on les concevoir préalablement comme étant un genre de dumbing down, une réduction de la tâche ou un adoucissement de la tâche, comme le morcellement, par exemple, où on va prendre une tâche puis on va la morceler et on va demander à l'élève d'adresser la tâche en petits morceaux, une à la fois. Puis on se rend compte, mais quand on l'offre à tout le monde, ceux qui en ont besoin s'en servent, ceux qui trouvent que sont déjà leur passé sont déjà capables d'aller de l'avant, bien, eux autres, même si c'est offert, ils ne s'en servent pas, puis ils vont produire le document d'un trait. Mais c'est pas évident. Je comprends, c'est un peu fou de demander à l'enseignant d'adapter la tâche à chaque individu. Mais en fait, c'est du cas par cas. Moi, si un élève vient me voir avec des difficultés particulières, là, il déclenche avec moi une série de questions où je l'invite à m'expliquer par lui-même quelle adaptation il voudrait qu'on mette en place et pourquoi.
D'accord. Donc...
Puis je l'invite ensuite à dire, OK, mais comment peux-tu m'assurer que tu as atteint ces critères-là et ces attentes-là? Alors, ce qui arrive encore une fois, c'est que les élèves deviennent responsabilisés. Ils se disent, quoi, tu veux que moi je pense à mon apprentissage? Oui, parce qu'en fin de compte, quand je ne serai pas là, c'est toi qui seras en charge de ton apprentissage. Et on peut attendre avant de te traiter comme un être à part entière, que tu sois à l'université. Mais pourquoi pas commencer quand l'élève a 12 ans, ou même avant, de lui dire, non, regarde, c'est toi qui vis, c'est toi qui apprends, c'est toi qui vas devoir trouver ta place. Alors... Apprends à te prendre en main un peu.
Oui, et les élèves répondent positivement finalement à cette...
C'est ça, et ça revient encore une fois à la motivation intrinsèque où on dit, on pourrait vous l'imposer, ça pourrait être draconien, ça pourrait être tant pis pour vous, c'est comme ça que ça marche, ce qui a longtemps été le cas, mais c'est pas réellement plus efficace. Ce qui arrive, en fait, avec le système traditionnel, c'est que la moitié des élèves rendus à la fin du programme sont académisés, mais on n'est pas certain si c'est le système qui l'a fait ou si c'est par leur propre nature ou leur milieu familial. Il faut un système d'éducation devrait être capable d'amener tout le monde à un certain seuil d'apprentissage. Et que si le système traditionnel avait des pertes, c'est-à-dire un tiers ou la moitié des gens qui passaient dans le système n'en ressortaient pas équipés pour être utiles de manière sophistiquée au milieu social. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les gens qui le sont en cause du système ou en dépit de ce système?
Oui.
Ouais. Alors, encore une fois, on se rend compte que quand on procède par l'intrinsèque, même si c'est un peu détourné, même si c'est très adapté, même si ça semble un peu chambouler les choses, que le résultat, c'est ceux qui allaient réussir de toute manière réussissent de toute manière, ouais, mais que ceux qui allaient tomber entre les cracks, ceux-là sont repêchés. Puis ceux-là sont amenés à découvrir une estime de soi, puis un engagement à s'approfondir. Ça prend du temps.
Excusez-moi, vous l'avez observé ça au fur et à mesure des années que vous aviez réussi à faire réussir davantage d'élèves en changeant cette méthode, justement, en passant de quelque chose de moins traditionnel à quelque chose d'un peu plus... Enfin, comme vous... Oui vraiment.
Je peux vraiment vous dire que oui.
D'accord.
Que cette histoire de bell curve, tu sais, où il y a une proportion... d'étudiants qui sont voués à l'échec, une proportion qui sont voués à l'excellence, et puis ensuite une gamme entre les deux, avec une distribution normale. Ça, c'est une construction ou un reflet du système. Je pense que j'ai des groupes qui finissent et que la moyenne, c'est une moyenne de 85%, wow. parce que le groupe en entier a acquis. Ceux qui avaient du retard se sont repris, se sont repêchés, se sont élevés eux-mêmes. Puis, dans le fond, on peut dire, une vraie réussite, ce soit que tout le monde ait une note excellente. Oui. Puis parfois, on va voir un groupe, tout le monde est excellent, mais oui, c'est comme une troupe de danse, tout le monde danse à un niveau excellent. Et puis, ça se peut. C'est faisable.
Bon, écoutez, en tous les cas, c'est très intéressant, même si c'est vraiment pas du... On n'en est pas là, nous, hein, donc pour l'instant, dans nos discussions.
Je comprends. Puis, comme vous avez dit, des fois, il y a des groupes particulièrement difficiles. Et puis, des fois, avec ces groupes-là, il n'y a plus question d'enseigner de la matière, mais d'enseigner de l'humanité. J'ai déjà eu un groupe avec qui il était impossible d'aller de l'avant. Donc, j'ai abandonné carrément la matière qui était géographie. Puis, pendant un mois, je m'en suis tenu à savoir-vivre. Un groupe de jeunes qui, en fait, souffraient. Ils étaient constamment en train de se rabaisser les uns les autres. Leur vie scolaire, leur vie sociale, c'était de l'amertume. Et puis, j'ai dû stopper le cours de géo puis enseigner l'humanité. Pendant un mois, on faisait des activités qui étaient simplement basées sur la bonne entente. Et puis, après cette expérience-là, le groupe est devenu une équipe. Et puis, ça m'a pris... j'ai cru que je n'allais pas pouvoir leur enseigner les critères de géographie parce qu'ils étaient cause perdue. Mais cette espèce de hiatus d'un mois m'a permis de comme ajuster mon tir, mais aussi de les ajuster en tant qu'équipe. C'était expérimental. J'ai réussi cette fois-là. Par le passé, j'ai eu beaucoup de groupes qui ont été infernales et pour lesquels j'ai pas pu avoir ces réussites. Mais encore une fois, c'est que je répondrais oui, toutes ces choses sont possibles.
Oui, donc finalement, ça ne sert à rien de s'acharner quand ça ne marche pas, à vouloir faire rentrer quelque chose qui ne rentre pas. Il vaut peut-être mieux essayer autre chose, quoi.
C'est ça. C'est la distinction clé entre une approche extrinsèque puis une approche de motivation intrinsèque.
C'est vraiment intéressant. Bon, bah, écoutez, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Je crois j'en ai déjà appris beaucoup. Et c'est vrai que ça fait se poser beaucoup de questions sur son métier.
Oui, mais j'apprécie beaucoup l'occasion. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de jaser avec vous aujourd'hui.
Bah, écoutez, merci. Et puis peut-être à une prochaine fois, parce que peut-être que je vais me renseigner un peu plus, puis je reviendrai vers vous pour peut-être d'autres questions.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Okay. Au revoir.
Au revoir.